Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Nathalie Barge.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du mardi 31 mai 2016. À la une ce soir.
L'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, de nouveau à la barre. Elle est jugée pour crime contre l'humanité.
Au Tchad, plusieurs dirigeants de l'opposition devaient être entendus ce mardi à la police judiciaire de N'Djamena.
Quand on parvient à juger un président qui est accusé de délits comme crime contre l'humanité, crime de guerre, viol, il y a quand même un message fort qui vient d'être lancé à l'endroit des dirigeants africains.
Que faire contre les inondations au Niger? L'ONU prévient que plus de 100 000 personnes risquent d'être affectées cette année.
Décès du chef du Front Polisario, Mohamed Abdelaziz, des suites d'une longue maladie, a annoncé le mouvement indépendantiste Sahraoui.
L'armée irakienne avance vers le centre de Fallujah en Irak, mais la résistance des djihadistes pourrait être longue.
Et bien sûr, l'économie et les sports, juste après le journal.
Le procès pour crime contre l'humanité de Simone Gbagbo, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, s'est ouvert aujourd'hui à Abidjan, en l'absence des organisations de défense des droits humains qui dénoncent leur marginalisation dans la procédure. Jacques Aristide nous en dit plus.
Madame Gbagbo, comparée pour crime contre l'humanité, crime contre les prisonniers de guerre et crime contre les populations civiles, commis lors de la crise post-électorale de 2010-2011, conflit qui a fait plus de 3000 morts en 5 mois. En tunique rose et blanche, élégante et longs cheveux tressés, Madame Gbagbo arborait un grand sourire à son arrivée à la cour d'assises. Jusqu'à cet après-midi, les débats n'avaient pas débuté sur le fond, mais portés sur la compétence même du tribunal. Les avocats de la défense affirment que les chefs d'accusation de crimes contre l'humanité et crimes de guerre ne figurant dans le code pénal ivoirien que depuis mars 2015, Madame Gbagbo ne peut être poursuivie pour des faits datant de 2011. Un peu plus tôt, dans la journée, une trentaine de militants pro-Gbagbo s'étaient rassemblés devant le palais de justice pour manifester leur soutien à l'ex-première dame de 66 ans, épouse de Laurent Gbagbo, qui comparait lui-même devant la Cour pénale internationale à La Haye. Simone Gbagbo est actuellement incarcérée à Abidjan, où elle purge une première peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État prononcée l'an dernier.
Jean-Pierre Bemba est de nouveau devant la CPI. Cette fois, c'est pour subordination de témoins. L'opposant congolais est accusé d'avoir fabriqué ou présenté à la CPI des faux documents. Détail Claire Morin-Gibourg.
Selon Fatou Bensouda, procureur de la Cour pénale internationale, Jean-Pierre Bemba est accusé d'avoir pensé et coordonné un plan depuis sa cellule à La Haye pour corrompre 14 témoins avec l'aide de ses avocats Aimé Kilolo et Jean-Jacques Mangenda, ainsi que Fidèle Babala, un député du mouvement de libération du Congo, le parti de Bemba. Jean-Pierre Bemba est détenu à La Haye depuis 2008 et ses co-accusés dans cette affaire comparaissent libres. Ils sont poursuivis pour subordination de témoins, pour avoir voulu les influencer, les soudoyer, les encourager ou les induire à déposer de faux témoignages. Le but de ce plan était d'obtenir l'acquittement de Jean-Pierre Bemba à son procès. Monsieur Bemba a déjà été reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité pour des actes commis par sa milice en Centrafrique entre 2002 et 2003. Sa sentence sera bientôt prononcée.
Au Tchad, dans l'affaire de disparition des militaires, la police judiciaire a convoqué les candidats à la présidentielle du 10 avril. 4 des 6 s'y sont rendus. Mélisse Hegel a joint Brice Mebong-Guenmaï, président du mouvement patriotique tchadien pour la République.
Juste après le vote des militaires, nous avons enregistré des plaintes et des militaires qui se sont présentés à nous pour exprimer leurs plaintes comme quoi ils ont été enfermés, ils ont été brutalisés, d'autres ont porté disparus. Et donc il y a eu une plainte généralisée de la part donc des parents de certains militaires. Et c'est pour ça qu'au cours d'une conférence de presse, nous avons mis le sujet à la place publique. La police voudrait qu'on lui donne des détails, préciser les noms, leur expliquer les circonstances, etc. Donc que nous nous prononcions en tant que témoin. Et c'est pour cela qu'elle a prévu nous entendre sur le procès verbal, comme dans l'affaire des militaires disparus.
Qui est-ce qui était présent lors de cette convocation?
Le directeur de la police judiciaire, son adjoint, avec quelques chefs de service et collaborateurs. Parmi les candidats, nous sommes quatre à être là. Il y a le député Galinga Tangote, le président Zimrangar Dadnazi, Joseph, et le président Mahamat Ahmad Alabo, et moi-même, Monsieur Gali, qui a fait valoir son statut de député, et donc couvert par l'immunité parlementaire, a refusé donc de répondre à la question de la police. Par contre, nous, la police a dit avoir reçu les instructions donc du procureur de la République de nous auditionner sur procès verbal régulier.
Le Niger risque d'être confronté en 2016 à de nouvelles inondations qui pourraient affecter plus de 100 000 personnes, ont prévenu les Nations Unies, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires au Tchad de Niamey, que nous retrouverons dans notre partie magazine dans quelques minutes.
Le chef du Front Polisario qui lutte pour l'indépendance du Sahara occidental, Mohamed Abdelaziz, est décédé aujourd'hui des suites d'une longue maladie, a annoncé le mouvement indépendantiste cité par l'agence algérienne APS. En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a décrété un deuil de 8 jours et ouvert la réunion d'un conseil des ministres par une minute de silence.
Dans l'état de Delta au Nigeria, au moins 10 personnes ont été tuées lors de manifestations de militants pro-Biafra qui marquait l'anniversaire du début de la guerre civile en 1967. La police dit avoir ouvert le feu car des membres du mouvement Peuple indigène du Biafra avaient tiré sur les forces de sécurité.
Par ailleurs, au moins 4 personnes ont été tuées dans le centre du Nigeria lors de 2 jours de violence à la suite de propos blasphématoires présumés d'un commerçant chrétien sur les réseaux sociaux. Ce jeune homme de 24 ans a été lynché par la foule dimanche après avoir posté ses commentaires.
Les forces du gouvernement libyen d'Union nationale, GNA, ont annoncé avoir pris le contrôle de la ville côtière de Benjawad et Nofliya, à l'est de Sirte, fief libyen du groupe État islamique. D'autre part, l'émissaire de l'ONU pour la Libye, Martin Kobler, a appelé ce mardi à Paris les forces armées libyennes du gouvernement et de l'est du pays à s'unir pour vaincre les djihadistes du groupe État islamique.
Et un navire de la marine française est arrivé dans la zone de recherche du vol Paris-Le Caire d'Égyptair afin de localiser les boîtes noires. Le bâtiment hydrographique La Place a commencé cet après-midi son programme de recherche, a indiqué un porte-parole de la marine.
Le parquet en Égypte a ouvert une enquête après la mort d'une adolescente décédée des suites d'une excision, pratique interdite par la loi, a indiqué aujourd'hui le ministère de la Santé. Mayar Mohamed Moussa, qui était âgé de 17 ans, est décédé dimanche après l'opération effectuée dans un hôpital privé de la province de Suez.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'armée irakienne affirme avoir lancé une opération pour reprendre la ville de Fallujah aux mains des extrémistes du groupe État islamique. Bagassi Koura nous en dit plus.
La milice chiite irakienne dénommée les Forces de mobilisation populaire a publié lundi soir une vidéo montrant ses hommes et les troupes irakiennes en train de tirer sur les positions du groupe État islamique. Des images aériennes publiées par l'armée irakienne montrent des raids dans et autour de la ville. Le commandant irakien, le lieutenant-général Hamid al-Maliki.
Nous avions effectué des 140 sorties en appui aux opérations militaires de Fallujah et 320 sorties générales. Les opérations militaires ont commencé aujourd'hui pour entrer dans Fallujah du côté du pont de Tufaha.
Les troupes irakiennes ont également été aperçues se dirigeant vers Fallujah, des drapeaux irakiens en l'air. Fallujah est un bastion sunnite sous contrôle du groupe État islamique, non loin de Bagdad, la capitale.
En Afghanistan, les talibans ont pris en otage plusieurs dizaines de personnes près de la ville septentrionale de Kunduz, affirment les autorités locales. Un commandant régional de police a déclaré à la Voix de l'Amérique que les insurgés ont enlevé au moins 52 passagers venant de Kaboul et tué 17 d'entre eux. Un porte-parole des talibans a revendiqué la responsabilité de l'attaque, précisant que 26 soldats et policiers en tenue civile ont été capturés alors qu'ils voyageaient dans des voitures privées. 6 otages ont été tués alors qu'ils tentaient de fuir, a-t-il ajouté. Au moins
50 personnes sont mortes à Idlib, une province syrienne contrôlée par la rébellion anti-Assad, suite à des frappes aériennes attribuées à l'aviation russe. Au moins 5 enfants figurent parmi les personnes tuées, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le ministère russe de la Défense a publié un démenti.
Alors qu'un mouvement social se poursuit en France contre la loi sur le droit du travail, un vent de contestation populaire souffle également sur la Belgique voisine. Les services publics, du ramassage des ordures au transport en commun, étaient perturbés ce mardi en raison d'un appel à la grève des syndicats, une semaine après une manifestation qui avait rassemblé 60 000 personnes à Bruxelles le 24 mai. Quelques 7 500 personnes ont à nouveau manifesté aujourd'hui dans le centre de la capitale belge. Selon la police, il faut dire que les rassemblements de moindre ampleur se sont déroulés dans plusieurs villes de province, mais le Premier ministre Charles Michel a promis de poursuivre les réformes économiques à la base de cette contestation.
Le néolibéralisme creuse les inégalités et ses bienfaits ont été exagérés. Ce verdict ne vient pas de militants d'extrême gauche, mais du FMI, traditionnel défenseur de cette doctrine économique sur le globe. Trois cadres du département recherche du Fonds monétaire international en parlent dans un récent article. Les experts démontent également l'argument selon lequel l'austérité serait bonne pour la croissance, en rassurant les investisseurs privés sur la solidité budgétaire d'un pays.
Plus de 334 000 personnes ont signé une pétition sur le site change.org demandant justice pour Harambee. Harambee, c'est un gorille d'une espèce en voie de disparition qui a été abattu dans un zoo de l'Ohio quand il a commencé à traîner un garçon de 4 ans tombé dans son enclos. Cet incident défraie la chronique sur les réseaux sociaux et dans la presse américaine depuis deux jours. Les signataires de la pétition réclament une action en justice contre les parents pour négligence. Ils veulent aussi le départ du directeur du parc zoologique de Cincinnati, où l'animal a été tué, pour sauver, dit-on, la vie de l'enfant. C'est tout pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Lyndon.
Le président nigérien Muhammadu Buhari se rendra jeudi pour la première fois en tant que chef d'État dans le Goniland, région pétrolière très polluée, mais aussi visée depuis le début de l'année par une vague d'attaques d'un groupe rebelle, les Vengeurs du Delta du Niger, qui menace la production pétrolière du pays. Officiellement, le président nigérien se rend dans le sud pour y lancer une opération de nettoyage présentée comme historique. Le Fonds monétaire international a annoncé samedi une assistance financière à la Centrafrique qui pourra se chiffrer à 110 millions de dollars sur trois ans pour aider ce pays ravagé par trois années de conflit à redresser son économie. Il s'agit en réalité d'un accord entre la mission du FMI dépêchée sur place et les autorités sur un programme économique pouvant être appuyé par un arrangement triennal au titre de la facilité élargie de crédit sous réserve de l'approbation en juillet prochain de la Direction générale et du Conseil d'administration du FMI. La capitale ivoirienne accueille le 15 juin prochain un forum économique ivoiro-indien. Ceci à la faveur de la visite attendue du président indien en Côte d'Ivoire. D'après le Financial Afrique, le volume d'échanges bilatéral entre la Côte d'Ivoire et l'Inde était estimé à 800 millions de dollars en 2015.
Nous passons tout de suite à la page sport avec Nicolas Pino. Salut Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
Alors, football, l'Ivoirien Serge Aurier au tribunal pour une nouvelle affaire.
Oui, Serge Aurier est resté en garde à vue près de 24 heures. Le footballeur ivoirien, arrêté après un contrôle dans la nuit du 29 au 30 mai, comparaîtra devant un tribunal le 26 septembre pour violence sur policiers à Paris. Pour l'heure, ni le défenseur du Paris Saint-Germain, ni son club n'ont réagi à cette nouvelle affaire.
Ouverture du procès de Lionel Messi pour fraude fiscale.
Oui, le procès de l'Argentin attaquant du FC Barcelone a débuté pour fraude fiscale aujourd'hui à Barcelone en son absence, une semaine avant le premier match de la Copa América à laquelle il doit participer avec la sélection argentine. On rappelle, Chérubin, que l'attaquant âgé de seulement 28 ans et son père doivent s'expliquer sur une fraude fiscale présumée atteignant 4,16 millions d'euros. La présence de Messi n'est pas obligatoire jusqu'à son audition prévue jeudi avant les plaidoiries de la défense et les réquisitoires.
Et il a plu à Roland-Garros.
Et oui, c'est du tennis. Les matchs opposant le Français Richard Gasquet au Britannique Andy Murray et le Suisse Stan Wawrinka, tenant du titre à l'Espagnol Albert Ramos, et ce en quart de finale. Ces matchs sont reportés à demain en raison du retard lié à la pluie. C'est ce qu'a annoncé la direction du tournoi. La journée de lundi a été entièrement annulée à cause des intempéries. C'est la première fois depuis l'an 2000 qu'aucun match n'est joué en une seule journée.
Célébration pour les Golden State Warriors, nous sommes dans la NBA.
Grâce à sa victoire 96-88 dans le match décisif, Golden State est venu à bout d'Oklahoma City dans la finale de la conférence Ouest. Golden State retrouvera en finale pour la deuxième année consécutive à partir de jeudi, Cleveland et LeBron James.
Merci Nicolas Pineau.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ravi d'être en votre compagnie, Nathalie Barge et Chérubin Gaby Dorsil. Place au dossier du jour.
Le jugement et la condamnation à la prison à perpétuité de Hissène Habré par les chambres africaines extraordinaires à Dakar répondait en partie au refus des dirigeants africains de voir l'ancien président tchadien extradé vers un pays non africain. Une initiative ad hoc qui ne s'inscrit pas dans la durée, font remarquer certains observateurs. Timothée Donangmaï a recueilli l'analyse de Manassé Aboya Ndong, enseignant de sciences politiques à l'université de Douala au Cameroun.
Ça peut plaire ou déplaire, toujours est-il que c'est une avancée dans la perspective de se réapproprier la justice destinée à connaître des litiges mettant en cause les chefs d'État africains, étant entendu que la perspective jadis mobilisée par la Cour pénale internationale avait été abondamment créolée dans la perspective d'infantiliser les Africains par rapport à leur incapacité à se prendre en main.
En même temps, un tribunal ad hoc, est-ce que ce n'est pas l'illustration de cette réticence à s'inscrire dans la durée, à juger les Africains?
Vous savez, il faut pouvoir franchir ce palier qui est un palier extrêmement important quand on connaît toute la réticence qui a entouré la mise en branle de cette juridiction. Je crois qu'avec les petits pas comme ceux-ci, on pourra dorénavant faire prendre conscience aux Africains que c'est possible effectivement de partir d'un tribunal ad hoc à un tribunal permanent, à l'instar de celui qui est souvent querelé par les Africains, qui est situé à l'arrêt aux Pays-Bas. Donc, c'est déjà un pas important qui a été franchi.
Qu'en est-il de l'effet dissuasif qu'on attendait de ce procès?
L'effet dissuasif est déjà là, parce que quand on parvient à juger un président qui est accusé de délits comme crime contre l'humanité, crimes de guerre, viol, il y a quand même un message fort qui vient d'être lancé à l'endroit des dirigeants africains afin qu'ils sachent que d'un moment à l'autre, ils peuvent rendre compte auprès des tribunaux si jamais leur bilan venait à être corrélé à leur passif des crimes comme ceux qui sont décriés pour ceux qui concernent Hissène Habré.
Quelles pourraient être les prochaines étapes pour que l'Afrique puisse consolider cet acquis?
Il faut que les politiques, les différents chefs d'État adhèrent à la perspective qui vient d'être mise en branle. Il faut que les uns et les autres acceptent le principe de se soumettre aux droits capables de sanctionner les actes qui seront posés par eux. C'est vrai qu'au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme, ce n'est pas évident. Mais je pense que l'étape décisive pourra être franchie si les Africains comprennent que la première grande leçon d'humilité, c'est de se soumettre aux droits que les uns et les autres ont créés et qui peut régir les rapports de confiance entre les gouvernants et les gouvernés.
Manassé Aboya Ndong, professeur de sciences politiques à l'université de Douala au Cameroun.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Hissène Habré en procès pour l'histoire. C'est la première fois qu'un tribunal africain juge un ancien chef d'État du continent pour crime contre l'humanité dans un pays autre que celui de l'accusé. La procédure contre l'ex-président tchadien peut-elle servir de modèle pour juger d'autres ex-leaders africains pour violation présumée des droits de l'homme? Les dirigeants africains seront-ils davantage tentés de revoir leurs relations avec la Cour pénale internationale? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Le procès de Simone Gbagbo, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, s'est ouvert ce mardi à Abidjan. Madame Gbagbo, 66 ans, comparaît pour crimes contre l'humanité, crimes contre les prisonniers de guerre et crimes contre les populations civiles, actes commis lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Mais ce procès se tient en l'absence des organisations de défense des droits de l'homme qui dénoncent leur marginalisation dans la procédure. Bagassi Koura a joint Antonin Rabec, le représentant Côte d'Ivoire de la FIDH, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme.
Écoutez, avant tout, je souhaiterais dire que c'était une décision qui était très difficile à prendre, très difficile parce que nos organisations, donc la FIDH, le MIDH et la LIDO, sont constituées de parties civiles dans ces procédures, dans l'ensemble des procédures de la crise post-électorale depuis 2012. Nous l'avons prise parce que, malheureusement, nous n'avions pas le choix. Nous avons estimé que les conditions n'étaient pas réunies pour participer à ce procès, essentiellement pour deux raisons, des raisons de forme. Nous avons été tenus éloignés de cette procédure et pour un procès d'une telle importance, nous considérons que l'implication des parties civiles, de l'ensemble des parties, mais des parties civiles et des victimes est essentielle. Ça n'a pas été le cas et donc ça ne nous a pas permis d'exercer pleinement nos droits en amont du procès. Et la deuxième raison, c'est une raison de fond. Nous estimons que juger Simone Gbagbo seule, comme c'est le cas avec le procès qui s'est ouvert aujourd'hui à Abidjan, c'est malheureusement une occasion manquée parce que nous aurions souhaité qu'elle puisse être jugée avec l'ensemble des hauts responsables qui ont pris des décisions menant à la répression et aux violences et aux crimes qui ont été commis.
Alors, le procès se tient malgré tout, hein. Quelles sont vos autres options ?
Alors, écoutez, la première chose, c'est que le procès de Mme Simone Gbagbo, c'est un procès parmi d'autres de la crise post-électorale. C'est, si vous voulez, la face visible de l'iceberg judiciaire de la crise post-électorale, puisque actuellement, plus de 150 autres personnes sont encore inculpées. Nous espérons qu'en tirant la sonnette d'alarme aujourd'hui sur les conditions d'organisation de ce procès, les prochains procès, les procès à venir, seront organisés dans des conditions satisfaisantes et que nous pourrons y participer. Ce n'est pas une stratégie de la chaise vide parce que nous observerons ce procès de très près. Nous étions d'ailleurs aujourd'hui à l'ouverture de l'audience et nous assisterons à l'intégralité de ce procès continuer de contribuer au renforcement de la justice ivoirienne et formuler des recommandations pour que la suite de ces procédures puisse être menée de façon, nous l'espérons, satisfaisante.
Comment vous avez aperçu cette première journée d'audience ?
Écoutez, ce qu'il faut peut-être remarquer, c'est que sur les témoins convoqués, 53 témoins étaient convoqués par l'accusation et seuls 7 étaient présents. Et la défense également a convoqué un certain nombre de témoins et un seul était présent au premier jour de ce procès. C'est peut-être regrettable, mais sinon le débat sur le fond commenceront dès demain et vous pouvez compter sur nous et sur nos organisations pour ne pas manquer aucun moment de ces débats.
On écoutait Antonin Rabec, représentant en Côte d'Ivoire de la FIDH. Il a été joint à Abidjan.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, 99 FM. En page humanitaire, la Maison Shalom du Burundi, qui œuvre pour la défense et la promotion des droits de l'enfant, a étendu ses activités au Rwanda pour venir en aide aux réfugiés burundais et enfants vulnérables. Cette ONG de droit burundais éduque notamment les communautés bénéficiaires à la culture bancaire en bénéficiant de microcrédits à rembourser avec de petits intérêts. Mais quels sont les défis qui se posent à ces réfugiés ? Pour un élément de réponse, Eric Manirakiza a joint à Kigali au Rwanda la présidente de la Maison Shalom, gagnante du Aurora Prize for Awakening Humanity 2016, Marguerite Baranquiste.
Par exemple, dans le camp de Mahama, c'est 50 000 personnes qui sont là. Nous ne pouvons pas avoir beaucoup d'argent, même le HCR n'a pas eu beaucoup de moyens pour envoyer tous ses enfants à l'école. 60% de ces personnes, de ces 50 000, sont des enfants, donc moins de 18 ans. Il faut les scolariser, il faut aussi aider. Donc, ça demande beaucoup, beaucoup de moyens. Ça, c'est un défi. Mais l'amour est inventif. Il faut commencer avec très peu. On ne doit pas attendre, comme j'ai fait à la Maison Shalom. Je n'ai pas attendu d'avoir tous les moyens pour commencer la Maison Shalom au Burundi. Oui. J'ai commencé avec les moyens de bord.
Et concrètement, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui et ce que vous comptez faire demain?
Depuis le mois de septembre de l'année dernière, ce qu'on a fait, c'était de scolariser. Nous sommes dans l'éducation. L'éducation professionnelle, l'éducation primaire et secondaire. Et maintenant, nous avons ajouté aussi la mise à niveau avec les étudiants qui ont fui, parce que parmi les jeunes qui manifestaient, il y avait beaucoup d'étudiants. Donc, nous avons commencé une mise à niveau pour que nous puissions les réintégrer dans les universités d'ici au Rwanda, parce que ici, c'est anglophone. Et puis, il y a un autre volet d'appui économique aux mamans en leur donnant des petits des microcrédits.
Est-ce que c'est suffisant?
Même si on a donné 1 million de dollars, moi, si on pouvait me donner 200 millions, hein, ce serait bien, quoi. Je pourrais donc scolariser tous ces enfants, les envoyer dans de bonnes écoles et puis donner la possibilité, la dignité de nourrir leurs enfants.
Est-ce que vos actions se limitent seulement aux ceux de réfugiés burundais?
La charité n'a pas de frontières. Donc, j'ai voulu aussi montrer que nous sommes au Rwanda, pas comme des réfugiés, mais nous sommes des citoyens du monde. Nous voulons partager le bonheur et distribuer le bonheur. Notre unique vocation, la vocation qui est sublime, c'est de distribuer le bonheur. Donc on a pris 20% de ce que nous faisons, donc de nos bénéficiaires sont des Rwandais. On a pris des mamans qui ont des enfants de moins de 5 ans pour leur donner des microcrédits. Et puis nous avons pris des enfants aussi pour les scolariser et puis dans les écoles professionnelles. Nous avons mis tout l'argent qu'on avait dans une microfinance d'ici pour qu'ils puissent rembourser tout doucement. Parce que c'est ça l'éducation. C'est ça aussi donner la dignité aux personnes.
Baron Kitz, présidente de la Maison Shalom, jointe à Kigali au Rwanda.
La Voix d'Amérique au Burundi, sur les ondes de la radio publique africaine, 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays. Et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
Le début de la saison des pluies en Afrique de l'Ouest inquiète les Nations Unies. L'antenne nigérienne de l'OCHA, le bureau de la coordination des affaires humanitaires à Niamey, a lancé l'alerte dans son bulletin mensuel. Au Niger, des inondations sont à craindre dans plusieurs localités. Environ 105 000 personnes risquent d'être affectées cette année. Claire Morin-Gibourg en a parlé avec Cathy Thiam.
Tout d'abord, j'aimerais préciser qu'il n'y a pas plus de risques au Niger que dans les autres pays de la région. Il y a des risques, bien sûr, mais qu'il n'y a pas une situation d'urgence en ce moment. Nous avons alors juste attiré l'attention sur les risques d'inondation et les mesures prises par les autorités et les partenaires humanitaires dans le cadre de la prévention et de la préparation à la réponse en cas d'éventuelles inondations.
Quels sont les principaux risques posés par les inondations au Niger?
Il y a des risques que les populations soient sans abri, que les stocks de vivres, les greniers soient touchés par les inondations et que aussi les champs soient détruits, que des surfaces emblavées soient détruites, entre autres.
Alors le Niger, ces dernières années, hein, a payé un lourd tribut, hein, en 2015, notamment en 2012. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que vous voyez une dégradation de la situation?
Alors, nous n'avons pas observé une dégradation de la situation. Et comme vous l'avez rappelé, en 2012, il y avait environ 500 000 personnes qui étaient touchées. Mais depuis lors, le nombre de personnes sinistrées a diminué de façon significative. Donc, on peut dire que des leçons ont été tiré de la situation de 2012 et que les mesures prises par les autorités et soutenues par les organisations humanitaires ont porté leurs fruits.
Est-ce que vous avez des recommandations, notamment pour les habitants, avec cette nouvelle saison des pluies qui commence ?
Il y a plusieurs mesures. Peut-être les populations qui vivent dans ces zones pourraient se déplacer vers d'autres où elles seraient plus en sécurité, plus à l'abri. Alors là, je peux vous dire aussi que le gouvernement du Niger, avec les acteurs humanitaires, ont mis en place un plan de contingence qui analyse bien sûr les risques, qui fait une évaluation de la population qui pourrait être affectée en cas d'inondation. Et des mesures ont été prises pour mobiliser rapidement des ressources afin de porter l'assistance nécessaire aux personnes qui pourraient en avoir besoin.
Cathy Thiam de Rocha à Niamey.
Et c'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Michel Joseph, à la console Souleyman Tarawale, à la présentation Nathalie Barge et Chérubin Dorsil.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com.